24 SMAG.
Fidèles téléspectateurs, auditeurs de Djeliba TV News, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 4 SMAG, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé et sécurité au travail, importance et défis pour l'entreprise et le pays. Pour les échanges, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau M. Youssouf Koulibaly, Youssouf Malik Koulibaly, il est expert en sécurité industrielle. Bonsoir M. Koulibaly.
Bonsoir.
Et bienvenue sur le plateau de 4 SMAC.
Merci beaucoup.
Et je crois que c'est votre deuxième ou troisième fois sur notre plateau.
Tout à fait.
Ok. Monsieur Koulibaly, aujourd'hui, nous allons parler de la santé et sécurité au travail, importance et défis pour l'entreprise et le pays. Monsieur Koulibaly, pourquoi la sécurité et santé au travail? Okay. Parce qu'on parle de santé, sécurité, mais pourquoi tout ça?
Ok, bonjour à tous, à tous les spectateurs, et bonjour à M. Faskoy et toute l'équipe de Djeliba TV. Donc, merci de m'avoir invité sur ce plateau pour discuter ce sujet. Alors,
pourquoi la santé et sécurité au travail?
Peut-être faudrait-il expliquer d'abord de quoi il s'agit, la santé et sécurité, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc, la santé et sécurité, ça désigne disciplines diverses qui tente à supprimer ou à limiter les effets nuisibles du travail sur l'être humain et son environnement. Quand tu essaies de décortiquer cette définition, c'est que c'est d'abord une discipline diverse. C'est une discipline qui va, si vous voulez, piocher un peu dans beaucoup d'autres domaines, tels que la médecine du travail, tels que la psychologie, la communication, l'ingénierie, que ce soit industrielle ou même civile. Bref, ça englobe beaucoup de domaines, hein, qui fait qu'on appelle discipline diverse, mais aussi ça permet de supprimer ou de limiter les effets nuisibles du travail. Supprimer veut dire souvent on peut éliminer les effets nuisibles, entendez par effets nuisibles les risques professionnels ou les agresseurs physiques, etc. Donc souvent, la santé sécurité peut supprimer, éliminer, ou ça peut tout simplement limiter, c'est-à-dire que diminuer l'effet en mettant certaines mesures en place. Donc c'est vraiment ça la définition, si vous voulez, académique. Mais selon la définition commune de l'OIT et de l'OMS, c'est que la santé au travail vise à différents objectifs précis destinés à protéger les intérêts des travailleurs et de façon générale. Le premier objectif consiste à maintenir un haut degré de bien-être physique, mental et même social des salariés. Donc c'est la définition de l'OIT. Voilà. Mais pour faire un peu simple, pour que le citoyen lambda puisse bien comprendre, c'est que c'est tout simplement la discipline qui permet de gérer les questions de risque professionnel au sein d'une entreprise. Gérer veut dire tout ce qui est action en amont avant les accidents et aussi tout ce qui est chose à faire après les accidents. Donc, pour vraiment simplifier le procédé, tout ça, ça vise vraiment à éviter les traumatismes et tout ce qui est pathologie, autrement dit les maladies professionnelles.
D'accord. Voilà. Monsieur Koulibaly, on parle le plus souvent d'un système de management intégré, QSE, c'est qualité, sécurité, environnement. C'est quoi? Quel est le rapport avec la SST, santé, sécurité au travail?
Alors, quand on parle de système de management, d'abord, il faut peut-être définir aussi ce que c'est qu'un système de management. Un système de management, c'est un ensemble d'éléments corrélés ou en interaction qui permettent d'établir des politiques, des objectifs et faire en sorte qu'on puisse réaliser ces objectifs. Donc, quand tu parles de système de management santé-sécurité, ça veut dire que c'est un système, c'est un ensemble d'éléments corrélés qui permettent de définir les politiques santé-sécurité et de fixer des objectifs santé-sécurité et faire des processus de façon à atteindre les objectifs qui sont fixés en santé-sécurité. Donc, un système de management santé-sécurité peut être séparé ou ça peut être intégré avec d'autres systèmes.
Okay.
Donc, séparé veut dire... on aura un système à part, typiquement santé-sécurité. Tous les éléments vont traiter les aspects santé-sécurité entendez par éléments tout ce qui est politique, tout ce qui est question d'évaluation de risque, tout ce qui est législation, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est ressources matérielles, tout ce qui est réponse d'urgence, tout ce qui est formation, etc., etc., jusqu'au management, la revue de direction, etc. Donc, c'est ça les différents éléments. Selon les entreprises, ça peut varier de 10, souvent 15, souvent 18, souvent 17. Ça dépend de la taille et de, comme on appelle, des activités de l'entreprise. Donc, un système intégré, c'est un système de management qui va merger les différents éléments du système. Par exemple, si je fais un système intégré, comme tu l'as dit dans la question, un QSE, ça veut dire qualité, sécurité, environnement, alors tous les éléments vont être intégrés en un seul. C'est-à-dire que si c'est par exemple un système de management de sécurité à part, tu vas avoir une politique sécurité. Un système de management de qualité à part, tu auras une politique qualité à part. Un système d'environnement, de management environnement à part, tu vas avoir une politique environnementale à part. Mais dans un système intégré, vous allez avoir une seule partie politique, un seul document, mais qui va tenir en compte les aspects de qualité, les aspects de sécurité et les aspects d'environnement. Donc vraiment, le système intégré permet de minimiser le nombre de documents. C'est-à-dire qu'il va réduire un peu la documentation et simplifier le processus de gestion aussi, quoi. Maintenant, un système, c'est vraiment ça la différence. Intégré, ça veut dire qu'on les merge ensemble. Et si on peut mettre, les systèmes aussi séparément. Comment les entreprises le font?
Mais qu'est-ce qui est plus efficace? Les séparer ou les mettre ensemble?
J'allais dire ça, ça dépend des contextes.
Ouais.
Pour une petite entreprise, on peut les intégrer, ça marche. Parce que le contexte n'est pas très grand. C'est-à-dire que les activités ne sont pas assez grandes. Et de sorte qu'on peut facilement cerner les aspects ensemble. Donc, pour les petites entreprises, un système intégré peut être bien. Mais pour les grandes entreprises, il faut souvent, c'est mieux de les séparer. Vous allez voir, pour les systèmes séparés, vous allez avoir un chef de département. C'est-à-dire chaque système va être géré par un chef de département. Donc, il y aura différents départements. C'est pour vraiment mieux gérer les aspects parce que tu vas trouver que c'est beaucoup. Sinon, tout est efficace. Ça dépend de comment on le pilote, quoi, en fait.
D'accord.
Voilà.
Mais M. Plivali, on dit le plus souvent que la santé et sécurité a un coût, mais n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
Alors, c'est pour moi, ça, c'est vraiment clair. C'est que pour faire la santé et sécurité, il faut investir de l'argent. Ça coûte, il faut former les gens, il faut acheter les équipements de protection, il faut acheter tout ce qui est équipement qui peut faciliter le travail de façon sécuritaire. Ça coûte de l'argent. Mais ça n'a pas de prix parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines. Donc, quand il s'agit de protéger la santé des gens, sauver des vies humaines, moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Donc, la question me répond en elle-même. Donc, c'est à mon avis, c'est ça. Quel que soit l'argent qu'on va investir dans la prévention, ou dans la gestion de la santé et sécurité, en retour, vraiment, on gagne beaucoup plus. Ça me fait penser d'ailleurs au résultat de la recherche de l'Association internationale de la sécurité sociale en Europe, qui a fait des recherches en 2010 dans 350 entreprises à travers 15 pays au monde. Et ils sont venus avec la conclusion que quand tu investis 1 euro pour la prévention, en retour, tu gagnes 2,2 euros. Ça veut dire que il y a un retour investissement sur investissement de 220% à peu près. Ce qui veut dire que non seulement ça a un prix, mais le prix là-même, il y a un retour sur investissement. Non seulement ça n'a pas de prix, mais aussi le prix. Même si tout ce qu'on investit là-bas, on a un retour sur investissement. En termes de, les gens vont se sentir bien à l'aise, les gens ne vont pas tomber malades, les gens ne vont pas être handicapés, les gens ne vont pas mourir, les opérations ne seront pas perturbés ou arrêtés à cause des accidents, des dégâts matériels qu'on va payer, tout ça là. Donc bref, ça va réduire les coûts, les dépenses et puis les pertes de temps de production, tout ça là. Donc c'est tout ça cumulé qui fait qu'on gagne beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on investit.
D'accord. Mais moi, où se situe le côté coût? Parce que moi, je me dis que c'est des procédures, il s'agit juste de nommer un responsable santé sécurité, mais surtout qui veille sur l'application de ces procédures pour qu'il n'y ait pas d'accident et incident. Mais où se situe le côté coût réellement?
Alors, le coût, il faut savoir que tout accident ou même incident coûte de l'argent. Comment ? Même le simple fait d'arrêter les opérations et de chercher à savoir ce qui s'est passé, il y a des heures qu'on va perdre en production, par exemple. Mais au-delà de ça, s'il y a eu un cas de blessure ou un cas de mort, on ne le souhaite pas, ou un cas de dégâts majeurs, il va falloir soigner la personne. Et si la personne est morte, on va la perdre en termes d'apport en compétences sur le lieu de travail, parce qu'il va falloir recruter quelqu'un, peut-être qu'il n'aura pas les mêmes compétences, il va prendre du temps. Et s'il y a un dégât matériel majeur, ça peut nous coûter des millions. Et ces millions-là, c'est des coûts. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle les coûts directs, qui sont mesurables et qui sont d'ailleurs généralement assurés par les assurances. Mais il y a ce qu'on appelle les coûts indirects, autrement dit les coûts cachés, qui sont difficilement perceptibles et difficilement estimables d'ailleurs, qui sont d'ailleurs les plus élevés que les coûts directs. Je donne un exemple. Dans une entreprise, s'il y a eu un accident grave où il y a eu des morts, n'est-ce pas, on va d'abord arrêter les opérations pour quelques jours, obligatoirement. Et s'il y a des dégâts matériels, on va payer de l'argent. Donc directement, tout ce qu'on va payer pour la compensation des morts, tout ce qu'on va payer pour remplacer les pièces, par exemple, ça, c'est mesurable, on peut faire une facture pour ça. Mais ce qu'on ne peut pas mesurer et qui est plus grand, c'est l'image de l'entreprise.
Ouais.
C'est l'image de l'entreprise qui va être diffusée à travers les médias, à travers le monde, qui va impacter même les entreprises qui sont cotées en bourse, ça va impacter sur leur valeur boursière. Qui entend par bourse, c'est qu'il y a ça génère de l'argent. Donc il y a des pertes à ce niveau aussi. Ça, c'est des coûts indirects qui sont difficilement mesurables. Si une machine, par exemple, je donne un exemple d'un camion de production qui fait un accident et qui est tombé, qui est endommagé, le moteur est gâté, par exemple, on va acheter le moteur, on connaît le prix, mais les jours que le camion va faire garer avant d'être réparé, les jours de production, là, généralement, on ne les calcule pas, mais c'est beaucoup d'argent.
Exactement.
C'est beaucoup d'argent.
Ouais.
Et les mécaniciens qui vont travailler sur cette machine, ça aussi, en général, on ne le calcule pas, mais c'est aussi un coût.
Ouais.
Voilà, si on devait facturer ça avec une structure indépendante, ils vont facturer l'intervention des mécaniciens, etc. Donc, il y a les coûts directs et il y a les coûts indirects pour tout incident, en général.
D'accord. Et quand on parle généralement de santé-sécurité, on entend parler de la 45001.
Ouais.
Mais pourquoi particulièrement la 45001? Est-ce que c'est une norme spéciale à laquelle tout le monde doit aller ou je ne sais pas? Parlez-nous un peu de la 45001.
Ok, merci beaucoup pour cette question. En fait, la norme ISO 45001, c'est la toute nouvelle et on va dire la première norme internationale aussi en termes de management de santé et sécurité. Avant cette norme, il y avait d'autres normes, je ne dirais pas des normes, c'était des spécifications. Il y avait la spécification britannique qui s'appelle OHS 18001, Occupational Health Safety Assessment Series 18001, mais qui était vraiment une spécification britannique. Il y avait aussi la norme de l'OIT, le ILO 2001. Donc, bon, il y avait d'autres normes qui sont pas... Il y a la norme australienne, etc., etc. Mais au jour d'aujourd'hui, la norme internationalement reconnue en termes de management de santé et sécurité, c'est vraiment ISO 45001. Okay? Donc, ISO 45001 donne les exigences nécessaires pour le bon management d'un système de santé et sécurité. Elle est structurée conformément aux autres normes de l'Organisation internationale de standardisation, qui s'appelle ISO. Donc, elle a la même structure que les autres normes, telles que la norme de qualité, la norme de l'environnement et d'autres normes. Et elle suit aussi le système de PDCA, de la roue de Deming, et tout ce qui fait management savent de quoi il s'agit. Ça y est, plan, do, check et act. Ça veut dire planifier, réaliser ou faire, et puis vérifier et réagir. Donc ça suit ce même cycle, et c'est composé en 10 chapitres, dont 7 sont des chapitres d'exigence. Les 16 chapitres d'exigence sont entre autres le contexte de l'organisme, le leadership et la participation des travailleurs, Et la planification supporte le chapitre réalisation des activités opérationnelles et évaluation et amélioration. Donc ces différents chapitres-là donnent des exigences qui, pour une entreprise qui veut faire un système de management, il va concevoir ces éléments en suivant ces différents chapitres-là, en s'assurant que les éléments répondent aux exigences de ces différents chapitres-là. Donc c'est aujourd'hui vraiment la norme qui est reconnue et qui est la norme internationale, voilà, à recommander. Oui. Et elle diffère un peu des normes précédentes du fait qu'elle est beaucoup focalisée sur l'approche processus. Okay? C'est-à-dire qu'elle va aussi, elle va faire en sorte qu'on essaie de se focaliser sur les processus au lieu des procédures. La norme OHS 18001 était beaucoup focalisée sur les procédures. Aussi, elle est très dynamique au niveau de ses articles. Et aussi, elle met l'accent sur l'implication et la participation, la coopération avec les employés. Chose qui n'était pas assez claire dans l'ancienne spécification. Donc, qu'est-ce que ça apporte comme avantage? C'est que les employés vont se sentir concernés, impliqués. Donc, ça va faciliter l'application des consignes sur le terrain parce qu'ils se sentent faisant partie intégrante de la chose. Donc, cela est très, très important. Ensuite, la norme, là aussi, sa particularité, c'est qu'elle elle traite les risques et les opportunités. Et elle est beaucoup proactive que réactive. Donc voilà, bref, pour être vraiment simple, ça c'est les points essentiels de cette norme qui, dans ta question, tu dis est-ce que c'est une obligation de la faire ou de ne pas la faire? Non. La loi, les lois en termes de management de santé et sécurité n'exigent pas de se certifier à une norme, mais demandent de faire la santé et sécurité au travail, faire prévenir, évaluer les risques et gérer les risques pour que les gens ne soient pas blessés, les gens ne tombent pas malades. Donc, c'est pas une exigence, mais ça permet de mieux structurer le management, ça permet de s'assurer qu'on fait bien. Okay? Ça permet de s'assurer qu'on fait bien et qu'on a un certain niveau de qualité dans notre manière de faire la gestion de la santé et sécurité. Donc, ça rassure les entreprises à être conformes aux lois et règlements.
D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut utiliser les outils de cette norme sans être certifié?
Absolument, oui. On peut bien utiliser les outils sans être certifié. On peut bien utiliser cette norme, essayer de faire un système de management conformant à la norme. On n'est pas obligé de se certifier, comme je l'ai dit encore une fois, mais ça nous permet de savoir qu'on fait bien. Voilà, on peut bien utiliser les outils.
D'accord. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont vers ça?
Oui.
La 45001.
Absolument, oui. Il y a beaucoup d'entreprises
qui... Particulièrement au Mali, ici.
Oui, mais surtout, c'est les mines que je connais beaucoup. Il y a beaucoup de mines qui se mettent dans le système. Je crois qu'il y a Barrick qui en a fait. Mm-hmm. Et d'autres entreprises, je ne connais pas tous. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de se certifier dans la nouvelle norme, la 45001. Au niveau national BTP, je ne sais pas trop, mais quand même, dans les mines, tout le monde essaie de se mettre sur cette norme.
D'accord, voilà. C'est encourageant. Ouais. Monsieur Clouvalli, parlons maintenant de l'importance de la santé et sécurité pour une entreprise. Je crois qu'on en a déjà touché. Mm-hmm. On va parler davantage de ça pour une entreprise et pour le pays d'une manière générale.
Oui. Ouais. Alors, l'importance de la santé et sécurité au travail, je crois que les statistiques de l'OIT ou de BIT prouvent à suffisance l'importance de la santé et sécurité au travail. Savez-vous que par an, il y a 270 millions d'accidents par an à travers le monde. C'est vraiment des statistiques. Okay. Je sais que c'est plus que ça. Il y a à peu près 160 millions de maladies professionnelles. Et 2,3 millions de décès par an, soit approximativement 6 300 personnes perdent la vie chaque jour dans le monde à cause du travail. C'est énorme, mais il faut noter aussi que ce n'est que vraiment, ce n'est pas tout. En fait, ça ne reflète pas la réalité. La réalité est tout autre, grave, plus grave que tout ça. Et ça fait un impact sur l'économie nationale, 4% du PIB, c'est-à-dire qu'on régresse un peu à cause des accidents et autres. Et au Mali, je n'ai pas les dernières statistiques, mais quand même la situation est très très alarmante aussi. Parce que si tu regardes les entreprises qui font déjà la prévention ou qui ne font pas la prévention, le pourcentage est très élevé. Okay. À part les sociétés minières et certaines sociétés internationales, les grands groupes, la plupart de nos entreprises ne sont pas dans cette démarche de prévention, donc il n'y a même pas de statistiques fiables qui sont disponibles. Mais quand tu fais une observation à travers le pays, tu vas savoir que la situation est très alarmante. Tous les jours, il y a des gens qui sont blessés ou qui meurent ou qui ont des maladies professionnelles à vie, qui sont devenus invalides, etc. Donc, la situation est très alarmante. C'est tout ça qui fait que la santé et sécurité, elle est très importante. Mais de façon plus spécifique, la santé et sécurité est importante pour trois raisons fondamentales.
Okay.
Premièrement, il y a la raison morale, c'est que venir travailler et retourner à la maison, sain et sauf, est un droit fondamental. Cette année, d'ailleurs, c'était le thème de la Journée internationale de la santé et sécurité au travail. C'est que c'est devenu un droit fondamental. Ça fait partie des principes et droits fondamentaux. Ça veut dire que nous devons tout faire pour que les êtres humains puissent nourrir leur famille sans être blessés ou avoir des maladies professionnelles. Donc, la vie humaine, elle est sacrée. L'entreprise fait la santé et sécurité pour que il n'y ait pas vraiment de problème d'accident. Chaque fois qu'il y a un accident, moralement, tout le monde est impacté. La personne, ses proches, sa famille, les collègues, c'est toujours difficile d'aller dire à la femme de quelqu'un, voilà, ton mari a fait un accident de travail et il est mort ou bien il a perdu une partie de son corps. Donc, c'est moralement, ça marque tout le monde. Donc, ça, c'est la raison morale. Aussi, la raison morale pour les entreprises, c'est que ça peut jouer sur l'image de l'entreprise. Ça peut jouer sur l'image de l'entreprise. S'il y a eu un accident grave dans une entreprise, les médias publient et ça impacte sur l'image des marques de l'entreprise. La deuxième raison, c'est la raison légale. C'est qu'il y a des lois qui exigent la santé et sécurité. Vous savez, la santé et sécurité s'est beaucoup développée au 19e siècle avec les progrès scientifiques et techniques, avec l'apparition des agresseurs physiques dans les usines, tels que les produits chimiques, tels que les machines tournantes, les explosions des produits chimiques. Donc tout ça a fait que l'OIT, les entreprises, les pays ont commencé à écrire les lois. Et initialement, les lois étaient beaucoup plus orientées vers les travailleurs vulnérables, tels que les femmes, les enfants. Mais de plus en plus, on a essayé de généraliser à tous les niveaux, à tous les travailleurs et même à la communauté autour des lieux de travail, etc. Même du pays de façon générale. Donc, parmi ces lois qui parlent de la santé et sécurité, il y a ce qu'on appelle la convention de l'OIT, la convention numéro 155, qui a été ratifiée par le Mali le 12 avril 2016. Donc, ça veut dire que cette convention, elle doit être appliquée au Mali. Et dans son article 16, parle des exigences de l'employeur par rapport à la prévention des accidents de travail. De façon, au niveau national, il y a le Code du travail. Dans son article, de l'article 170 à 189, on parle de la santé et sécurité. On parle des exigences de la santé et sécurité. Le Code de la sécurité sociale, dans l'article 61 à 84, on parle aussi de la prévention et de la réparation des accidents de travail et aussi des maladies professionnelles.
Okay.
Ensuite, il y a le Code minier, dans son article 140 jusqu'à 141, etc. Bref, ça veut dire qu'il y a des lois au Mali aussi qui exigent la santé et sécurité au travail. Donc, dans ces lois-là, vous allez voir, il y a non seulement les dispositions qui exige à l'employeur de faire certaines choses pour éviter les accidents, mais aussi aux employés de faire certaines choses pour éviter les accidents. Respecter les règles, porter les EPI, etc. Tout ça, c'est consigné dans les législations. Là. Et à défaut de respecter ces législations, les entreprises peuvent avoir des problèmes juridiques. Okay. Okay. On peut les poursuivre, ça peut amener des amendes, même à la fermeture de l'entreprise. Donc ça, c'est une des raisons aussi. La troisième raison, c'est économique, on l'avait touché bientôt. C'est que tout accident coûte de l'argent. Et dans certaines entreprises, d'ailleurs, on appelle les gens qui font la santé sécurité, on appelle ça les loss contrôleurs. Parce que, quelque part, ça minimise les pertes. Okay. Hein, les pertes, on l'avait parlé bientôt, les coûts directs, les coûts indirects. Donc, tout accident coûte de l'argent en termes de les dépenses qu'on va mettre pour soigner les personnes blessées, l'argent qu'on va utiliser pour acheter les pièces endommagées, ou même s'il y a un incendie, par exemple, pour réparer les bâtiments, tout ça, là, c'est de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a tout ce que j'avais dit avant, c'est les coûts indirects, les pertes en production, etc. Donc, c'est ça. Et ensuite, on a dit que aujourd'hui, les entreprises modernes, multinationales, se comparent entre eux en fonction de leur performance en santé, sécurité au travail. C'est comme une sorte de critère de marketing des entreprises.
Exactement.
Voilà.
Le nombre de temps passés.
Voilà. Les fréquences des accidents, ou les nombres d'heures passées sans faire une blessure avec arrêt de travail. Les entreprises, ils se comparent avec ça. C'est pour dire qu'ils sont responsables. C'est des entreprises responsables. Vous connaissez l'histoire de la RSE. Donc, et qui dit entreprise responsable, dit entreprise qui va durer. Qui va durer parce que ça veut dire que vous faites beaucoup de prévention, vous n'allez pas disparaître. Et qu'est-ce que ça fait? Les bailleurs de fonds qui financent ces entreprises vont être rassurés aussi. Ouais. Vous voyez, donc tout ça, c'est les aspects économiques. Ils vont être rassurés et ils vont accepter d'injecter de l'argent dans ces entreprises pour qu'ils puissent continuer à faire de nouveaux projets. Voilà, donc de façon générale, ça, c'est vraiment les raisons et l'importance pour lesquelles nous faisons la santé sécurité. À défaut de faire la santé sécurité, on peut faire facilement des pertes. Je donne l'exemple, par exemple, d'une entreprise minière multinationale qui s'appelle Vale, qui a son bassin de boue avait cédé en 2019 au Brésil. Et du coup, il y a eu 58 morts et 305 personnes portées disparues à cause de la boue qui a ragé les communautés, les villages qui sont autour. Immédiatement, la justice brésilienne a bloqué 3 milliards de dollars pour les frais de dédommagement et autres. Vous voyez, ça c'est un aspect économique. Ouais. 3 milliards de dollars dans les chiffres d'affaires, si ce n'est pas une grosse entreprise, vous allez mettre la clé sur la porte.
C'est clair.
Voilà. Donc, tout ça, là, ça explique l'importance du management de la santé et sécurité. Peut-être qu'il fallait renforcer le bassin ou reconstruire peut-être moins que la moitié de ce qu'ils vont payer maintenant. Ouais. Et sans compter l'aspect moral. Parce qu'ils ont perdu en bourse. En 24 heures, ils ont chuté en bourse. Près de 50%. À la bourse de Sao Tomé au Brésil et à la bourse de New York aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment ça, si vous voulez, le résumé de l'importance du management de la santé et sécurité au travail.
D'accord. Voilà. Et bien là, quels sont les défis en ce moment?
Alors, les défis, elles sont énormes en termes de, d'abord, parce que les défis, c'est quoi? C'est les difficultés qui font qu'on a du mal à bien faire, n'est-ce pas?
Exactement, oui.
Donc, c'est d'abord l'engagement du leadership. Généralement, dans les entreprises, les chefs d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise, en tout cas de nos pays en voie de développement...
Mais la SST au second plan, c'est ça?
Voilà, ils n'ont pas compris encore que c'est important. Donc, ils ne sont pas assez engagés. Parce que quand tu leur demandes, par exemple, d'aller acheter un camion ou un équipement pour faire la production, c'est vite fait. On injecte facilement l'argent là-dedans. Mais quand tu dis les choses, il faut mettre de l'argent pour acheter des choses pour la prévention.
Ça devient compliqué.
Ils tergiversent un peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette perception de rentabilité de la santé et sécurité. Ils ne connaissent pas encore que c'est rentable tel que je l'ai défini, tel que ça a été dit par l'AISS, qui dit que c'est 220% rentable. S'ils avaient cette perception, ils allaient le faire. Donc la difficulté, une des plus grandes difficultés, comment engager les chefs d'entreprise à prendre la santé sécurité au sérieux. Donc il faut qu'ils comprennent qu'il y a un retour sur l'investissement là-dessus et qu'au-delà de ça, ça permet de même sécuriser l'entreprise. Ça permet de faire vivre l'entreprise. ça, si vous voulez, ça assure la durabilité même de l'entreprise.
Ouais.
Voilà. Mais cette perception n'est pas claire au niveau de la plupart des leaders. Donc ça, c'est là vraiment, ça demande beaucoup de formation, sensibilisation. Il y a aussi la mauvaise perception entre vitesse de production et respect des consignes de sécurité. La plupart des lieux de travail, les gens ils piétinent un peu les règles de sécurité préalables, par exemple, pour faire un travail, parce qu'ils pensent que ça les met en retard. Ils pensent que le fait de respecter les règles, ça les met en retard. Donc, mais c'est une mauvaise perception, c'est une fausse perception d'ailleurs. J'en ai vécu un exemple très palpable en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé pour une entreprise minière là-bas. Et en 10 ans de service, ils n'ont jamais réalisé de profit. C'est-à-dire qu'ils faisaient la production, mais ils ne réalisaient pas de profit. Les dépenses dépassaient toujours le gain. Mais en 2019-2020, quand j'étais là-bas, on a changé l'approche du management en santé et sécurité. On a eu des leaders qui étaient beaucoup plus engagés. Et ça nous a permis de réduire la fréquence de tous les accidents en une année à peu près à 65%. Et la même année, du coup, oui, et la même année, du coup, et c'était la seule année où on a doublé l'objectif en termes de réalisation de profits. Donc, les objectifs en production, je veux dire le chiffre d'affaires, l'intérêt, ce qu'ils ont gagné en profit, c'est la seule année où on a pu doubler ça. Et c'est la seule année où on a réduit la fréquence des accidents à 65%. Ça, c'est la preuve pour dire que la production et le respect des consignes, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, ça favorise la production. Parce que ce qui s'est passé avant, ils produisaient beaucoup, mais ils négligeaient les règles et qu'on avait finalement trop de dégâts matériels. Le coût de ça, là, comme on appelle, dépassait les profits qu'ils réalisaient en production. Donc ça c'est juste pour dire ça, que c'est une mauvaise perception pour les chefs de production ou les chefs d'entreprise de dire que le fait de respecter les règles, ça met la production en retard. C'est le contraire.
Ouais.
Voilà. L'autre défi, c'est la complexité des activités au niveau des entreprises. Parce que pour pouvoir gérer la santé et sécurité et faire la prévention des accidents, il faut maîtriser les risques.
Exactement.
Il faut savoir comment identifier les risques,
ouais,
et il faut savoir comment les maîtriser. Cela est un grand défi parce que tu vas trouver il y a des milliers d'activités sur le lieu de travail qui se font de différentes manières. Donc, ceux qui font la santé et sécurité doivent vraiment maîtriser pour chaque activité comment les risques se manifestent et comment je dois faire pour que le risque ne pose pas de problème. Où sont les agresseurs physiques? Quand ils se manifestent, quelles sont leurs caractéristiques? Comment ils peuvent atteindre l'être humain? C'est un grand défi, mais ça peut se gérer aussi avec la formation, etc. Mais il y a aussi un facteur très important, un défi très important, c'est celui du facteur humain. Le comportement, la culture. Surtout dans nos pays où il y a beaucoup de croyances, il y a la croyance qui influence un peu, ou la culture influence un peu sur notre manière de faire, notre manière de croire.
Okay.
Beaucoup de gens pensent que les accidents arrivent parce que... entre guillemets. Ah, du fatalisme. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui décide. Donc si Dieu décide qu'il y aura accident, il y aura accident. Donc quand tu as ça dans la tête... Tu as ce mindset, c'est difficile pour toi de prendre au sérieux les consignes. C'est pour cela, dans certaines entreprises, on a beaucoup de surprises. Souvent même, il y a des formateurs même qui passent à côté des règles et qui font des accidents graves. J'en ai vu beaucoup d'exemples dans les entreprises.
Monsieur Koulibaly, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de sensibiliser d'abord le top management?
Oui. Oui, tout à fait.
L'intérêt de la santé et sécurité.
Voilà.
Avant d'arriver au...
Absolument. C'est le point crucial en management santé et sécurité. Comment changer le comportement, comment changer la culture, comment changer le mindset. Et comme tu as dit, ça commence par la formation du leader. C'est pour cela, dans certaines entreprises où j'ai passé, j'ai commencé, pour changer la culture, j'ai commencé à développer un module qui s'appelle Safety Leadership Training, la formation en leadership sécurité. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en Côte d'Ivoire.
D'accord.
Et l'effet, c'est qu'en une année, on a pu réduire à 65%. Donc, il faut que les leaders de haut niveau d'abord soient bien formés.
Oui, évidemment.
Et ils comprennent de quoi il s'agit. C'est quoi la santé sécurité? Quels sont les importants? Pourquoi c'est important? Pourquoi on le fait? Quel est l'avantage?
Et mettre la santé avant la production.
Absolument.
La sécurité avant la production.
Justement.
C'est ça. Mais si la production est... Et avant la sécurité, ça ne peut pas aller.
Oui.
Voilà.
C'est le manque de prise de conscience. En fait, s'ils ne sont pas assez formés, comme tu l'as dit, ils ne sont pas bien formés, ils n'ont pas certaines visions sur la chose, ils n'ont pas un jugement positif de la chose. Parce que beaucoup de gens font juste pour la forme, pour juste dire que bon, on fait. Mais ils ne le font pas à fond parce qu'ils n'ont pas encore mesuré l'importance. Donc, c'est à travers les formations de leadership, la sensibilisation au quotidien et aussi même des méthodes de motivation que j'ai mis en place dans certaines entreprises. Ça, je sais qu'ils font bien, tu leur donnes des prix, tu les nommes des champions ou même des petits systèmes de motivation à travers des cartons, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça les défis majeurs. C'est surtout dans nos pays, comment convaincre les entreprises à aller vers ça.
Okay.
Donc je pense que la politique nationale va beaucoup jouer sur ce plan. En tout cas, il y a beaucoup de défis d'abord pour comment convaincre les gens par rapport à ces différentes choses.
D'accord. Ouais. Et là, je sais qu'on en a parlé déjà. Et si on vous demande de parler, de faire un état des lieux de la SST dans les entreprises maliennes?
Alors, c'est, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est que quand tu fais l'état des lieux sans faire des statistiques bien élaborées, on observe que vraiment c'est... La situation est alarmante. Il y a beaucoup de travail à faire pour que ça marche, pour qu'on puisse vraiment atteindre un certain niveau acceptable en termes de management de santé et sécurité. La plupart des entreprises au Mali, si tu prends 100 entreprises, peut-être c'est 5 à 10 qui font un peu bien. Et ça va se retrouver au niveau des mines. Mais quand tu rentres... dans les petites unités industrielles, j'ai eu à faire de l'expertise dans certaines. J'avoue qu'il y a du travail à faire. Parce que même le BABA n'est pas respecté dans beaucoup de petites micro-industries qui sont là. Et même les lieux de bétibier, tu vas trouver que même les EPI, les gens ne portent pas. J'ai fait l'expertise dans une usine dont je vais taire le nom, où les gens ne portent même pas de chaussures de sécurité, ne portent pas de verres de sécurité. Et il y avait des projectiles partout, il y avait des trucs qui tombaient sur les pieds. Et quand les gens ils sont blessés aussi, la prise en charge, c'est pas ça. Donc, il y en a même qui ne sont même pas inscrits à l'INPS, ou ils n'ont pas d'assurance. Donc ça veut dire que le constat est vraiment alarmant.
Alarmant.
Ouais. Voilà.
Ok. Je sais qu'on vient de valider la politique nationale de la santé et sécurité au travail il y a quelques mois.
Mm-hmm.
Il reste la promulgation par le CNT. Est-ce que ce document va combler tous les vides qu'il y a autour de la mise en œuvre de la SST dans nos entreprises?
Alors, c'est déjà un grand pas, moi je dirais ça, parce que le fait que déjà il y a une politique nationale qui parle de la santé, ça c'est un grand pas. Ensuite, je fais partie de l'Observatoire sur la santé et sécurité au Mali, donc qui est aussi une structure qui va beaucoup contribuer pour améliorer les questions de santé et sécurité au travail, qui est composée d'ailleurs de beaucoup de gens, étatiques, privés ou même des experts comme nous. Donc voilà, c'est un espoir. Le document est une chose, mais l'application est une autre chose.
Exactement.
Donc moi, c'est un grand pas. Il va falloir maintenant, après l'approbation, essayer de faire l'application sur le terrain. Donc là, j'interpelle vraiment les autorités qui sont compétentes en la matière, l'inspection du travail et autres, de vraiment pousser à ce que vraiment les entreprises puissent adopter cette politique nationale qui va donner le résultat escompté, qui est vraiment la prévention des accidents et maladies professionnelles, pour que les gens puissent travailler et rentrer à la maison sains et saufs.
D'accord. Ouais. Monsieur Koulibaly, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Votre mot de fin.
Ok, alors merci beaucoup. Alors, considérant l'importance que nous venons de souligner de la santé et sécurité au travail et considérant aussi les défis que nous avons soulignés. Vraiment, j'encourage toutes les entreprises à s'inscrire dans la démarche de la prévention, dans la démarche de la santé sécurité, et à dépasser les défis qui les bloquent en termes de perception de la rentabilité ou de l'importance, et de faire en sorte que vraiment on puisse qu'ils puissent mettre les systèmes de management en place, faire la prévention des accidents et en faire une priorité absolue avant de faire toutes sortes d'activités. Aussi, j'en appelle aussi aux autorités qui permettent d'exiger l'application des lois qui parlent de la santé et sécurité sur le terrain, parce que ça, il y a du travail à ce niveau. Donc vraiment, c'est un appel pressant à tous les niveaux, que ce soit au niveau des autorités, les entreprises et même les employés, à prendre la santé et sécurité au sérieux, parce que c'est quelque chose de très important. L'être humain est au centre du développement, est au centre du travail. Il n'y a pas de travail sans une personne. Si les personnes sont blessées, ou elles sont mortes tout simplement, ou elles ont des maladies professionnelles, ça va gâter tout le reste. Même le travail, on ne pourra pas le faire. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour finir, je remercie vraiment Joliba TV pour m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet très important. Et je vous remercie aussi, M. Kaskoy, et tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci M. Clivary d'être venu. J'espère vous recevoir encore sur ce plateau pour d'autres thématiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour KTS MAC d'aujourd'hui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous recevoir encore pour d'autres thèmes. D'ici là, portez-vous bien, mais restez pour la version Bambara de KTS MAC.
KTS MAC.
Kenya ani lakana bararo la ale fembade ale nikiba anye fo femindo c'est que ale de we ke sababu ye adamadun baraketola barakololo te fenke ula donc abu nikishi kabo accident ma jokenuma abu nikishi kabo banam fnama barare sekana ni kololo munu suma no seka bana donc ale be nyeshi ba lakana be nyeshi okumelo de ma donc abe do barakelo ni kololo barakololo che mala surunyana fo lakana na fa atsega foka ba parce que ne ya jetem ne jenselege nani tomba mbi na be nyeshi lakana to botolema jien kono aye jetem ne uke ka fo jien kono accident kacha kujo accident kacha sangono accident mi sega se million kemen fla ani koma u bɛ se ka na ni sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn fila ani kɔ fana u bɛ se ka ni kasara a bɛ se ka mɔgɔ jogin mɔgɔ bɛ se ka bana fo ka se mɔgɔ miliyɔn kelen ani bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma kumalasurunyala tile o tile i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ba wɔɔrɔ ani kɛmɛ saba olu de bɛ suwa u bɛ bana u bɛ sa baarayɔrɔ kɔlɔlɔ kosɔn donc o de kama nafa b'a la kosɛbɛ nafa b'a la kosɛbɛ parce que ni lakana ma tɔbɔtɔ baarayɔrɔ la i b'a ye nanurutɔ bɛ caya i b'a ye banabaatɔ bɛ caya i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ dɛsɛ u ka baaraw la ka sababu kɛ baara kɔlɔlɔw ye donc o y'a nafa dɔ ye nka nafa kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ min b'a la kosɛbɛ ni a kɛli ye wajibi ye baarayɔrɔw kan o ye de a fɔlɔ ye min ye adamaden ni kisili ka kan ani lakanani ka kan parce que adamaden nana baara kɛ baarayɔrɔ la o kɔrɔ tɛ a ka kɛ sababu ye a ka se ka sa a ka se ka bana donc o man di mɔgɔ si ye donc o n'i ma kisi yɛrɛ kosɔn lakana ka kan ka kɛ ni mɔgɔ banana mɔgɔ ye problème sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ de dusumakasalen don donc o dusumakasa yɛrɛ o man ɲi adamaden ma o man ɲi baarayɔrɔ ma donc o y'a kɛkun dɔ ye a dɔ fana ye sariyaw bɛ a wajibiya baarayɔrɔ kan diɲɛ seleke naani sariyaw olu b'a wajibiya mali yɛrɛ sariya caman sariya bolo caman bɛ o bɛ lakana wajibiya baarakɛyɔrɔ kan diɲɛ seleke naani sariya min bɛ a wajibiya mali kan an ye bi bi min na o ye BIT Bureau International de Travail olu ka sariya bolo bɛ yen n'an fɔ convention 155 mali ye jɛnna n'a ye mali y'o a siɲɛ k'a fɔ ko ale bɛ o a b'o sariya bato mali kɔnɔ yan
donc o sharia yin bi a wajibiya mali barakaro bela ani fana mali re sharia bolo munum be ne code de travail code de la sécurité sociale ani convention minière ani sharia bolo weran ul bebe ma lakanaka o article chama mbafo ni mo mi ataka laje ni ya konna laje ba article chama be web maka kafo e bararo la baratiki kanga baradon lakana akanga kololo jatem nek alaje kololo munu munu ka bararo la obese ka kumbe choko jumana ka equipment de protection du ma fe mina munu bato ube kishi kololo ma aneka u forme fana ka kololo nya fuye pour que obese ko yera matanga ma choko nda donc oye a comment on appelle anafan doye anafan vrai minye oye ni lakana ma matrafa bararo la kosere accident fem fem beke abena ni war la tiende donc be baro bararo be barake pour yasa ka war de soro donc ni tienu tiara ibtaye soro be dogoya donc soro be dogoya ka sababu ke ni mogo banana par exemple ibe furake ni minen tiena ina war dola ou bien ni mogo re ala kan kisaba ni mogo sara o tigi be boy mogo re mena ya no tigi ka se ko ga baranyo na ko be comment on appelle be pertudé donc olu be kama lakana kanga matrafa bararo la kanga matrafa ka sababu ke barakela ni be kishi bararo fana be meshi la bararo fana be warsoro et puis jamana rabe nemisi wasa sora kono magala ba be mulo ye ka afo beyla afo barakena bararo be u ka lakana do barakala u kata sebela u kata sebela ka sababu ke abe mogo kishi abuka bararo re kishi donc jamana kono nyemogo fana ku janto la fana ku kase ka lakana do bala chukum hakla abena do bala parce que gouvernement re malika sharia bu ka apmaka en même temps ou ye politique d'ota politique de santé sécurité donc ma rolou ke soba ye lakana be se ka sabati ko sobe en même temps me appel ke ka fo be barakelon baratiku gouvernement be ka lakana do bala do woro be ke soba ye am se ka nga barakero lakana sabati abe san nga bop ma kono be ful ka roy joluba tv mo ani RS monsieur Fasco et puis mo mo be ka laje nga ful be la jale
Cafres Mag